L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui en Suisse, c'est une polémique après l'invalidation d'un scrutin populaire près d'un an et demi après le vote. En France, le cafouillage au sommet de l'État en marge des célébrations de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Avec cette question, fallait-il ou non célébrer le maréchal Pétain ? Au Canada, les excuses du gouvernement Trudeau aux Juifs refoulés par le Canada en 1939. Nous irons également en Afrique auprès des centaines de milliers de Congolais expulsés de force par l'Angola. Et puis nous essaierons de comprendre pourquoi la Belgique a autorisé le dégel des intérêts et des avoirs libyens, contrairement aux résolutions de l'ONU. Voilà pour l'actualité francophone, bienvenue à tous. Ali Bongo, le président du Gabon, est à l'hôpital en Arabie Saoudite. Il est dans le coma après un AVC, Mehdi Medeb.
Oui, officiellement, la présidence assure que le dirigeant a eu une grosse fatigue, mais depuis deux semaines, Ali Bongo, 59 ans, n'est plus réapparu. Quelle est la gravité de son état de santé? Quelles sont les séquelles? En tout cas, Ali Bongo ne se rendra pas aux commémorations du 11 novembre en France. Personne au Gabon ne semble en mesure de dire s'il reviendra au pouvoir, et forcément, ça alimente en ce moment la machine à rumeurs. Le fils d'Omar Bongo était depuis sa réélection contestée, un président isolé. Il est désormais un président en sursis.
Au Canada, hommage à Bernard Landry, l'ancien Premier ministre du Québec, est mort cette semaine. Il avait 81 ans, Sébastien Desrosiers.
Ouais, c'était un héros presque pour certains Québécois francophones. Il a dirigé la province de 2001 à 2003, mais il a consacré sa vie vraiment à la cause indépendantiste. Professeur, avocat, économiste, il est élu pour la première fois en 1976 sous la bannière du Parti québécois. Il est l'un des derniers de cette génération qui a bien failli faire l'indépendance du Québec lors des référendums de 1980 et de 1995. Il a ensuite été élu chef du parti de 2001 jusqu'à sa démission en 2005, Bernard Landry était toujours admiré, un homme brillant, amoureux du Québec, un visionnaire. Il aura droit à des funérailles d'État la semaine prochaine.
En Belgique, Nathalie De Vic, le roi Albert II, le père de l'actuel roi Philippe, se voit forcé par la loi à se soumettre à un test ADN.
Un test que notre sixième roi a toujours refusé, une paternité qu'il a toujours niée tant qu'il était en fonction jusqu'en 2013. Et depuis, sa position n'a guère changé, sauf qu'aujourd'hui, la cour d'appel de Bruxelles lui ordonne de s'y conformer dans les trois mois. Alors Delphine Boël, une artiste de 50 ans, pourrait ainsi être reconnue comme le quatrième enfant légitime de notre ancien roi, avec tous les droits qui en découlent, sauf celui de prétendre au trône. Mais Albert II, âgé de 84 ans, n'exclut pas d'ici là de se pourvoir en cassation.
En Suisse, un vent de transparence souffle sur la politique et ça a causé la perte d'une des fortes personnalités du parti socialiste, Pierre Anchoffat.
Oui, Géraldine Savary en effet jeté l'éponge. Elle ne sollicitera pas un nouveau mandat au Parlement fédéral et abandonne la vice-présidence du parti en cause les dons qu'elle a reçus d'un riche entrepreneur pour ses campagnes électorales. Un homme au bénéfice d'un de ces forfaits fiscaux dénoncés sans cesse par les socialistes. Géraldine Savary a reconnu qu'elle avait manqué de prudence et en tire les conséquences politiques pour ne pas nuire à son parti, l'un des rares à plaider précisément pour la transparence du financement des campagnes politiques.
En France, l'émotion et la joie de l'écrivain Nicolas Mathieu, nouveau lauréat du prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français. Nicolas Mathieu est récompensé pour son livre « Leurs enfants après eux ». C'est son deuxième roman seulement, un livre qui décrit le milieu ouvrier des années 90 dans une France qui se désindustrialisait. Nicolas Mathieu ne faisait pourtant pas partie des écrivains favoris pour ce Goncourt 2018. En Afrique, retour sur le sort de ces centaines de milliers de Congolais expulsés d'Angola. Ils sont 500 000 à avoir été renvoyés de force depuis le mois dernier, Mehdi Bedeb.
Oui, en effet, renvoyés manu militari vers la province frontalière du Kassai. Parmi ces expulsés, énormément de creuseurs artisanaux. Le secteur du diamant en Angola dépend de ses petites mains. L'opération sans précédent à ce jour est encore largement mystérieuse. Sur les routes de l'Exode, ils sont encore des centaines chaque jour obligés de franchir la frontière. Et il y a parmi eux beaucoup d'enfants, des familles éclatées, des enfants qui recherchent désespérément leurs parents.
Les militaires sont venus chez nous. Ils ont arrêté papa et maman sous nos yeux. On est d'abord resté là, dans la maison, à pleurer. Et le soir, j'ai fermé la porte pour que nous dormions. Le lendemain, lorsque j'ai vu tous ces gens dehors, en train de fuir vers le Congo, on les a suivis parce qu'on ne savait pas où aller.
Et sur le terrain, une poignée d'ONG, la Croix-Rouge internationale, pour leur venir en aide. La République démocratique du Congo qui fait face, en effet, à une nouvelle crise humanitaire d'ampleur. Pour l'instant, c'est le silence au sein de la communauté internationale sur cette crise humanitaire d'envergure dont personne ou presque ne parle.
En France, le cafouillage au plus haut sommet de l'État, alors que la France est en train de commémorer les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron multiplie depuis une semaine les déplacements vers les lieux historiques de 14-18 dans le nord et dans l'est de la France. Hommage sera rendu ce week-end aux maréchaux français qui ont permis cet armistice du 11 novembre. Dans un premier temps, Emmanuel Macron avait l'intention d'honorer le maréchal Pétain, celui de 18 et non pas celui qui livra la France aux Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, a tenu à préciser Emmanuel Macron.
Je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà, c'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième.
Honorer Pétain, même s'il ne faut retenir que celui de 14-18, pas question, ont répondu les institutions juives de France. Et dans la classe politique également, le mouvement de la France insoumise, à gauche de la gauche, y voit une grave errance du président Macron. Écoutez le député de la France insoumise, Adrien Quatennens.
Il faut quand même rappeler que le maréchal Pétain a été frappé d'indignité nationale, il a été complice de crimes. Il a été celui qui a instauré le statut des juifs en France alors que l'occupant ne faisait même pas pression pour cela. Il a donc été complice de crimes, il a été frappé d'indignité nationale. On voit mal pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron pourrait décider seul de le réhabiliter.
Alors face à cette polémique, le président Macron a finalement rétro-pédalé. Le nom de Pétain ne sera pas prononcé ce week-end lors des hommages rendus aux maréchaux de 14-18. Seuls seront cités les maréchaux qui sont enterrés aux Invalides à Paris, ce qui n'est pas le cas justement du maréchal Pétain. Au Canada, le gouvernement Trudeau a présenté ses excuses aux Juifs qui avaient été refoulés par le Canada en 1939, Sébastien Desrosiers.
Ouais, voilà, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, des Juifs fuyaient le régime nazi. 907 d'entre eux ont quitté l'Allemagne à bord du navire MS Saint-Louis dans l'espoir de trouver refuge en Amérique. Ils sont allés d'abord à Cuba, puis aux États-Unis, où ils se sont fait barrer le chemin. L'équipage a donc pris la direction de Halifax. Alors, des Canadiens ont tenté de convaincre le gouvernement de l'époque d'accepter leur demande d'asile, mais le premier ministre a refusé d'accueillir le navire. Le MS Saint-Louis est donc rentré en Allemagne. La plupart des passagers se sont dispersés sur le continent européen et plus de 250 d'entre eux ont été victimes de l'Holocauste. Alors, 79 ans plus tard, Justin Trudeau a présenté ses excuses à ses passagers ainsi qu'à leurs familles.
Nous devrions avoir honte de l'histoire du Saint-Louis et du mauvais traitement qu'ont subi les Juifs avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Honte parce que ces gestes vont à l'encontre de la promesse de notre pays. Ce n'est pas le Canada que nous connaissons aujourd'hui, un Canada beaucoup plus généreux, accueillant et compatissant.
Il faut dire aussi, Sébastien Desrosiers, que la fusillade dans la synagogue de Pittsburgh il y a près de 2 semaines a donné une signification toute particulière au geste du gouvernement canadien.
Oui, le drame du Saint-Louis était alimenté par l'intolérance et la haine. Or, l'intolérance et la haine existent toujours, c'en est un exemple, et en voici un autre. Selon les plus récentes données, la communauté juive, encore aujourd'hui, est la cible la plus fréquente de crimes haineux au Canada. Alors, certains espèrent que ces excuses lanceront un débat sur ce que nous pouvons faire de plus pour lutter contre l'antisémitisme.
Cette semaine, en Suisse, ça a été vécu comme un séisme politique. Pierre Anchoffat, il s'agit d'un scrutin populaire sur la très sensible question jurassienne. Et cette question a été invalidée près d'1 an et demi après le vote.
Oui, en l'état, le transfert de la ville de Moutier du canton de Berne au canton du Jura est gelé. En juin 2017, la population de la principale commune du Jura bernois avait décidé à une courte majorité de rejoindre le Jura, mettant fin, croyait-on, à la question jurassienne, cette querelle territoriale qui empoisonne les relations entre les deux cantons depuis des années. Mais voilà, à la suite de plusieurs recours, l'autorité administrative bernoise compétente a jugé que le maire de Moutier avait mené une propagande non admissible dans le cadre de la campagne. Le soir même de cette décision, sur notre antenne, le maire de Moutier et une figure des antiséparatistes ont débattu dans un café du lieu. L'ambiance était électrique.
J'ai mal aujourd'hui, j'ai mal à la région, j'ai mal au canton, au pays. C'est du mépris, on a méprisé un vote qui a été fait dans les règles de l'art et là je suis absolument pas d'accord.
Moi j'ai envie de dire quand même à Marcel Winisterfer, l'autorité elle doit prendre un peu de hauteur et d'être la modératrice du débat. Or à Moutier on a observé que elle n'était pas la modératrice du débat, mais elle était devenue un mouvement de lutte comme un autre.
La tension était donc vive, mais il n'y a finalement pas eu de débordement à Moutier comme on pouvait le craindre.
Et maintenant, Pierre-Han, que peut-il se passer ?
Eh bien, deux options sont sur la table. Tenter d'obtenir rapidement une nouvelle votation ou emprunter la voie juridique avec des recours jusqu'au tribunal fédéral si nécessaire. Les autonomistes n'ont pas encore tranché.
La Belgique, Nathalie Devic, la Belgique a été épinglée par les Nations Unies pour ne pas avoir respecté les sanctions internationales contre la Libye.
Oui, ce sont des sanctions qui avaient été imposées en 2011 en raison du conflit secouant le pays. L'ONU demande alors dans une de ses résolutions de geler les avoirs libyens du colonel Kadhafi. Ces fonds sont bien restés bloqués en Belgique. Par contre, les intérêts générés, eux, ont été libérés un an après, soit tout de même plusieurs millions d'euros reversés sur des comptes au Luxembourg, à Bahreïn, en Grande-Bretagne, et qui pourraient, pense-t-on, avoir servi à financer des activités criminelles. C'est à l'époque l'ancien administrateur général de la trésorerie qui donne son autorisation par courrier à la banque Euroclear où ses fonds reposaient. Reste à savoir sur ordre de qui, comme se le demandent de nombreux députés, parmi lesquels Paul-Olivier Delannoy.
J'ai quand même du mal à croire qu'un fonctionnaire puisse, dans de tels montants, jouer seul. Et donc, si effectivement certains ont peut-être pris le rôle du parapluie, il y avait quelqu'un qui le tenait.
Et ce quelqu'un pourrait être son ministre de tutelle, ministre des Finances de l'époque. Le haut fonctionnaire de la Trésorerie, Marc Montbalieu, reconnaît qu'il disposait alors d'une délégation de signature, lui permettant de signer en son nom. Mais sur quelle base juridique, légale, la décision a-t-elle été prise ? Le ministre des Affaires étrangères était-il par exemple au courant ou quiconque au gouvernement ? Les Nations Unies aujourd'hui réclament des explications et souhaitent que toute la transparence politique soit faite dans ce dossier très sensible.
Voilà donc pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.